Vous recherchez une formation vraiment enrichissante? Les Compagnons du Tour de France vous invitent à leur journée portes ouvertes. Avec des formateurs passionnés et des centres dans toute la France, les Compagnons du Tour de France vous proposent des parcours d'excellence dans les métiers d'art et du bâtiment pour les jeunes dès 14 ans et des formations professionnelles pour les adultes. Pour connaître toutes les dates des portes ouvertes près de chez vous, rendez-vous sur compagnonsdutourdefrance.org. Les Compagnons du Tour de France, la transmission des savoir-faire. Vous écoutez
RMC. RMC, les meilleurs moments des grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
Joyeux Noël à vous les auditeurs. Profitez bien de vos proches. On est avec vous sur RMC en ce dimanche de Noël. Encore une heure de best-of des grandes gueules du sport. Revenons sur le samedi 1er octobre. Ce jour-là dans l'émission, le tennisman français Corentin Moutet était notre invité exceptionnel. Quelques jours plus tôt, il avait fait le buzz sur les réseaux sociaux après une altercation avec un joueur bulgare à la fin d'un match. Autour de lui, David Douillet, Stephen Brun, Denis Charvet et Christophe Cessieux. Proverbe guadeloupéen, le pardon ne guérit pas la bosse.
RMC.
Les grandes gueules du sport passent la seconde.
Aïe. Aïe, y a bagarre.
Ça y est, c'est parti.
C'est parti sous nos yeux là en bas.
Calmez-vous un peu.
Non, je me calme pas.
Llorente est allé lui hurler dessus et là Savic, ça l'a rendu dingue. Et là, il y a des échanges de coups, hein, très clairement.
Je vais péter un coup.
Il y a eu un pain, il s'est pris un pain, Savic.
Ah ouais, c'est parti dans le tunnel, vous ne le voyez pas, mais la bagarre est générale.
C'est pas ce qu'il cherche là, mais c'est pas bon ça. La bagarre.
Il y a bagarre. Oh, c'est électrique.
C'est une scène assez rare en tennis que nous avons vécue cette semaine. Corentin Moutet a eu donc une chaude altercation avec le bulgare Adrian Andreev au deuxième tour du Challenger de l'Open d'Orléans. Le joueur français qui est avec nous dans le studio RMC en est venu aux mains avec son adversaire lors de la poignée de main finale. Les deux joueurs ont dû être séparés par l'arbitre de ce match. Corentin Moutet qui a publié un texte sur Instagram. Corentin, je tiens à ne pas m'excuser pour ce qui est arrivé, ce qui est assez rare. Attention, j'ai relu deux fois pour savoir s'il y avait une erreur. Je tiens à ne pas m'excuser. Quand un joueur se permet de dire fuck you à deux reprises en me regardant dans les yeux, je ne peux m'empêcher de lui faire comprendre à ma manière que ce ne sont pas des choses qui se font. Avant d'entendre Corentin, évidemment, sur cette histoire, la musique qui fout les jetons et cette question. Faut-il pardonner les pétages de plomb, mes GG? Oui ou non? Christophe Cessieux.
Mais oui, bien sûr que oui.
David Douillet.
Eh oui, bien sûr.
J'ose à peine poser la question à Stephen Brun, qui est donc un habitué des pétages de plomb. Stephen Brun.
Oui, il faut tout pardonner.
Tout pardonner, ok. Denis Charvet, les valeurs de rugby.
Une fois, pas deux.
Une fois, pas deux. Très bien, mon cher Denis. Avant de débattre, vous allez nous donner votre point de vue. Corentin Moutet est donc notre invité. Merci une nouvelle fois, Corentin, d'avoir répondu à notre invitation. Que s'est-il passé sur ce court? Parce que, je le disais, c'est une image assez rare. Est-ce que vous pouvez nous raconter?
En fait, pas grand-chose, à vrai dire. En fait, c'est rare dans le tennis de voir ça, donc forcément, ça fait parler, c'est impressionnant. Mais en vrai, c'est pas passé grand-chose. Le truc, c'est qu'on s'est joué la semaine d'avant à Gênes, en tournoi, où c'était pareil. Bon, il y avait pas autant de monde, c'était beaucoup plus discret, mais il m'avait cherché tout le match et tout, et je lui avais demandé ce qu'il cherchait en fait. S'il était venu là pour jouer, ou s'il était venu là pour me perturber et chercher quelque chose que j'ignorais. Et donc ça avait commencé en fait la semaine d'avant, donc forcément c'est déjà monté en pression, et avant de se jouer on avait déjà un passé assez récent. En plus, même si c'était rien passé du tout la semaine d'avant, juste il m'avait cherché, je lui ai demandé pourquoi il me cherchait et ça s'était arrêté là. Et puis à ce match là en vrai c'était un match, c'est un gros match, enfin c'est un très bon joueur, il a très bien joué, c'était un très beau match de 3 heures, donc avec beaucoup d'émotions
et de tension côtés,
et de tension et de fatigue aussi. Et puis en fait moi j'étais, en fait la manière dont ça s'est passé à la fin du match, j'étais surpris, je pense comme tout le monde, de sa réaction à lui, parce qu'il avait gagné. Donc moi j'étais très frustré de perdre ce dernier point, j'avais juste envie de partir à partir du moment où c'était fini, j'avais envie de lui serrer la main rapidement, serrer la main de l'arbitre, partir. Comme on peut le voir d'ailleurs sur la vidéo que j'ai vue malgré moi.
Et toi, t'avais rien contre lui, là, on est d'accord?
Si, moi, j'apprécie pas la personne, j'apprécie pas la manière dont il se comporte, et pour moi, il me respecte pas. Donc pour moi, j'allais faire les choses bien, lui serrer la main, ouais, serrer la main de l'arbitre pour le public, parce que le public était là, avait vu un beau match, et que le match était beau, même si je respecte pas la personne. C'est un très bon joueur, comme je le disais, il joue très bien.
Tu n'y allais pas pour la castagne, si j'ai bien compris.
Bah, aucun moment. Ouais, j'espère que ça se voit et que
ça se voit. Quand on a livré une bataille comme ça pendant 3 heures, comme tu le disais, face à un adversaire, quand on rentre sur un court, l'adversaire en face, même si on le respecte, on a quand même envie de le battre, pas l'humilier, mais enfin, c'est presque un ennemi au départ. C'est un adversaire, mais un ennemi. Est-ce que c'est facile, justement, une fois que tu as terminé la rencontre, de revenir en arrière et de faire évacuer tous ces sentiments qui peuvent t'assaillir pendant une rencontre?
Ouais, en vrai, c'est super facile parce que la plupart des joueurs que je joue ont du respect pour moi, donc j'ai du respect pour eux. Souvent, ça va dans les deux sens. Et en fait, un match de 3 heures, qu'on le gagne ou qu'on le perde, il y a une forme de respect pour l'adversaire quand il gagne parce qu'il a surmonté des choses qu'on a essayé de surmonter et on n'est pas sorti vainqueur, donc il y a la déception. Mais c'est deux choses différentes. Moi, j'ai beaucoup de respect pour tous les joueurs qui sont sur le circuit parce que je sais ce qu'ils ont fait pour en être là. Parce que j'ai fait les mêmes choses, je sais les sacrifices, les efforts que c'est, je sais ce que ça coûte. Donc tous ceux qui sont là, c'est pas par erreur. Et du coup, j'ai beaucoup de respect envers eux pour ça.
Corentin, est-ce que tu as écouté les déclarations de ses déclarations d'après-match? Puisque lui, il a quand même fait une déclaration en conférence de presse en disant que il t'accuse un petit peu, quoi. Il dit que c'est de ta faute. Enfin, moi, j'étais très surpris de ça. Alors, je suis pas jugé parti. Enfin, je veux dire, moi, j'ai beaucoup de recul. Qu'est-ce que t'en penses de ces déclarations?
Bah après, de toute façon, non. De toute façon, c'est assez subjectif. Hein. Quand on regarde une vidéo, tout le monde va avoir un point de vue différent. J'imagine que lui aussi, après ce qu'il a fait, il va pas dire que c'est de sa faute, parce que pour les suites que ça peut, qu'il peut avoir et tout ça, ça serait un peu bête de sa part. Mais après, s'il pense que c'est de ma faute, je l'entends. C'est son point de vue à lui. Mais en vrai de vrai, moi, je suis allé sur le terrain. J'avais qu'une envie, c'était de partir, en fait, parce que j'étais déçu. Ça fait 2 fois d'affilée que je perds contre lui sur un match très serré. Donc j'étais juste déçu, en fait. J'étais très déçu parce que j'ai vraiment tout donné pendant ce match. J'étais déçu pour mon entraîneur, j'étais déçu pour j'avais envie d'aller plus loin, enfin pour plein de raisons j'étais déçu. Et du coup en fait j'étais surpris de qui viennent comme ça m'agresser au filet alors qu'il avait gagné. J'étais surpris.
Je raconte la scène pour ceux qui ne l'auraient pas vu. C'est une poignée de main assez virile, on va dire. Et puis on sent que sur la poignée de main, chose qu'on a peu l'habitude de voir, vous êtes torse contre torse parce qu'il y a tellement d'émotions et de décharges.
En fait, il me tire, en fait. Moi, je vais pour lui serrer la main tranquillement. Et je vois qu'il prend de l'élan pour me serrer la main. Donc à ce moment-là, je comprends plus ou moins. Donc je lui serre la main et je sais que ça va être qu'il va falloir serrer la main parce que apparemment on est parti pour ce genre de poignée. Mais bon, il y a 3000 personnes je pense dans la salle, donc c'est quelque chose où moi il y a des enfants. Et d'ailleurs dans mon message que je publie après, ce qui est un peu bête, c'est que bien sûr que je regrette pour les enfants parce que c'est un mauvais exemple et que c'est la seule raison pour laquelle je regrette, parce que les adultes ils sont assez grands pour comprendre ces choses là les enfants non. Donc je regrette juste pour tous les enfants qui étaient là sur le terrain, les ramasseurs, tout ça. Mais bon, bref, en tout cas, il me tire vers lui. Donc je suis surpris. Je suis surpris de ce moment-là.
Ok, surpris de ce moment-là. Corentin Moutet est avec nous dans les grandes gueules du sport. Et puis après, on débattra au-delà de ça sur évidemment, on va pas rester que sur ce cas précis. Parce que bon, c'est pas non plus très, très grave ce qui s'est passé sur ce court de tennis. Après, et puis on fera connaissance un peu plus avec Corentin. Stephen.
Oui, tu veux que je dise quoi?
Non, tu voulais prendre la main.
Non, parce que moi, je voulais revenir sur le débat.
D'accord.
Je voulais revenir sur le débat. Donc vas-y, Christophe. Je vais pas faire une interview de Corentin.
Non, moi, je voulais poser une question à Corentin. Corentin, c'est la première fois que tu te bagarre sur un terrain, mais tu es quand même assez coutumier du fait des pétages de plomb. Est-ce que tu ne penses pas aussi qu'aujourd'hui tes adversaires vont essayer de profiter de ta faculté à t'énerver assez rapidement pour essayer justement de te faire dégoupiller et pour remporter les matchs? Je lisais une interview de ton ancien entraîneur il y a quelques semaines où il disait
très mauvaise interview d'ailleurs, si tu peux me permettre.
Tu l'as trouvé très mauvaise? Vous parlez plus depuis?
Si, non, mais je l'aime beaucoup, c'est une personne que j'aime beaucoup, mais j'ai trouvé ça très déplacé de sa part.
Donc il raconte que t'as toujours pas réussi à passer le cap, le petit déclic, comme a réussi à le faire Roger Federer, par exemple, lorsqu'il était jeune, où effectivement il pétait les plombs, et après il est devenu beaucoup plus calme, beaucoup plus zen. Est-ce que tu as l'envie et est-ce que tu sens que c'est quand même un point faible chez toi?
Je vais pas faire de comparaison à Roger, parce que je pense que si on se compare tous à Roger ou le meilleur personne dans notre sport, on est tous ridicules.
Ouais. En tout cas, nous, on te souhaite une bonne carrière.
Dans le fait que, si tu veux, il était comme ça en début de carrière, quoi.
Oui, très bien. Non, mais après, sur le fait qu'il y a des déclics, moi, je crois pas trop aux déclics. Je pense que toutes les progressions dans tous les domaines, elles se font assez progressivement. Il n'y a pas de jour et nuit comme ça, du jour au lendemain. Et, Et je pense aussi que moi, il m'entraînait quand j'avais 15 ans. Aujourd'hui, j'en ai 23. J'étais 700e junior. Aujourd'hui, je suis 65 ATP. Donc, je pense qu'il y a eu quand même une progression là-dessus, tennistique. Il y a eu beaucoup de travail. Et du coup, c'est pour ça que son interview m'a un peu blessé. C'est que je trouve que on peut pas décrédibiliser, en fait, le travail, les gens autour qui travaillent aussi pour me faire progresser et la progression qui est là, en fait, qui est là dans le classement, dans le niveau, dans tout, en fait. Et je trouve ça assez décrédibilisant. Et de sa part, pour m'avoir entraîné, je trouvais ça un peu déplacé. Sachant que c'est clair, quoi, qu'il y a eu des progrès après.
Mais chez toi, c'était réducteur, en tout cas. C'est ce que tu voulais dire. On va avancer sur ce débat, les ouais. copains. Et peut-être que aussi, Corentin pourra nous apporter de l'eau au moulin sur notre débat sur les pétages de plomb qui peuvent arriver. C'est la vie aussi d'un sportif de haut niveau. Donc, forcément, je me tourne vers toi, Stéphane.
Ouais, en fait. Alors bien sûr que l'image elle est pas bonne pour le tennis, l'image elle est pas bonne pour les deux joueurs. Maintenant le tennis c'est quand même un sport ultra particulier, c'est que tu joues un mec pendant 2 3 4 5 heures avec de la tension, avec de la pression, avec des émotions. Tu vois nos sports rugby, basket, foot, tu t'embrouilles avec un mec, tu peux le chicoter parce qu'il y a des contacts physiques, tu peux lui mettre 2 3 pralines. La frustration au tennis, elle est dure à gérer. Et c'est pour ça que on parlait de Federer, ouais, Federer, Nadal, les mecs ils jouent 5 heures, ils ont pas une émotion. Bah, enfin ils sont numéro 1, ils ont gagné 21 grand chelem, un grand chelem. Donc c'est des mutants. Aujourd'hui, chacun est fait différemment, avec des émotions, avec des caractères différents, et gère à sa façon les émotions. Moi, j'ai vu des pétages de plomb. On en parle parce que c'est Corentin Moutet, parce qu'il est français, et parce qu'aujourd'hui, malheureusement, on a que ça à se mettre sous la dent sportivement pour le tennis français, parce qu'en grand chelem, on a, enfin, il n'y a pas de les Gaël et tout ça sont tous partis, donc on aspire souvent à des deuxièmes semaines qui sont pas là. Moi, j'ai vu Medvedev péter les plombs à l'Open d'Australie en janvier, on lui a pardonné. J'ai vu Zverev, et je trouve qu'on lui a pardonné très vite, et que l'ATP lui a mis 2 mois de sursis à Zverev,
qui était à deux doigts
de fracasser un arbitre avec sa raquette à Acapulco. Je trouve bien plus grave qu'une pseudo-bagarre à l'Open d'Orléans. J'ai l'impression qu'on pardonne aussi tous les excès à Nick Kyrgios. Pourquoi on leur pardonne tout ça?
Parce et que on les pardonnait mecs... aussi à McEnroe à l'époque.
Mais pourquoi?
Quand il pétait les plombs.
Mais parce que les parce mecs gagnent des tournois, parce que les mecs sont top 20, parce que c'est des stars, et je trouve que l'ATP a été très conciliante avec Zverev.
Dans le cas de Corentin, on n'a pas lui pardonné. Il a pas de pardon, il a rien fait de mal.
On en a fait tout un pataquès.
J'aimerais avoir ton regard et après on va aller voir David, ton regard sur ce que vient de dire Stephen. Est-ce que il y a un peu un deux poids deux mesures et c'est plus facile de pardonner quand les mecs gagnent, quoi, en gros.
Ouais, non, mais de toute façon je l'ai toujours dit, le jour où, si jamais un jour je suis numéro 1 mondial, ou si un jour je gagne un grand chelem, j'aurais beau me comporter de la pire façon sur le terrain, les gens l'accepteront. Et si jamais je suis 200e mondial et que je me comporte très bien, les gens me regarderont pas de toute façon. Exactement. Donc en fait, c'est qu'une question. Les gens ne s'intéressent qu'au résultat.
C'est le regard.
En fait, c'est que ça. Professionnellement, c'est si tu réussis, si tu gagnes des matchs, t'es nul si jamais t'en gagnes pas.
C'est la loi aussi du sport.
C'est un peu comme ça. C'est la loi du sport.
Mais oui.
Mais je pense qu'on peut être fier de soi même quand on perd. Je pense qu'on peut être fier de soi même quand on se comporte mal parfois parce qu'on a des émotions. Je pense qu'on peut être fier de soi en fait parce que c'est beaucoup d'efforts pour être ici de toute façon. Et que
oui, mais
évidemment que ça pardonne pas tout et qu'on a on doit se comporter d'une certaine façon pour donner l'exemple et pour nous-mêmes en fait, pour se respecter nous-mêmes. Mais en fait, je pense que on est facilement condamnable comme tu disais. Je sais pas si c'est parce qu'on est français ou si c'est parce que et puis. Ça fait parler aussi parce que le tennis c'est un sport super lisse parce qu'on a le droit de rien faire sur un terrain.
Mais...
Et du coup en fait quand on voit quelque chose comme ça, les gens, en fait ce qui est très bizarre, pour être au cœur du truc, ce qui est très bizarre c'est que d'un côté les gens sont contents de voir ça parce que ça enlève ce sport lisse,
oui,
et d'un autre côté ils veulent te punir pour ça, mais les gens ils relaient les vidéos. Moi Eurosport, ils ont, pardon, je sais pas si j'aurais le citer ici.
Si tu le fais, évidemment, les adore.
non mais tout le monde a relayé la vidéo.
Ouais.
Donc ça, en fait, ça fait un peu la pub de ce sport. Ah, c'est pas si lisse, c'est pas mal, et en même temps il y a pas le droit de faire ça.
Oui, mais
et puis on va s'entendre. Attends Denis, je te dis, David, on l'a pas entendu depuis 20 minutes au moins qu'on échange tous avec
nous. Il ne veut pas parler.
Il mange un camembert, David.
À la pub. David,
non mais
je l'ai fini aussi.
Tu as raison, et on rappelle, regarder la vidéo, c'est pas grave.
Moi je me bats avec une babola dans les mains, je t'annonce que le mec, sa tête elle passe à travers le corps.
Je voulais rebondir, c'est pour ça.
Oui, mais tu rebondiras juste après. David Douillet.
Tu peux rebondir sur David par contre.
Là on est en train de parler d'une tempête dans un verre d'eau, quoi. Enfin c'est
ouais, c'est le problème du tennis.
Ouais, mais c'est dingue parce que on est dans une ère de la polémique, du truc. Dès qu'il y a une mouche qui pète, ça y est, ça devient un truc de fou. Moi, je trouve que les gens sont, enfin, toutes celles et ceux qui relaient ça ne connaissent pas le haut niveau, ne connaissent pas le sport, et en particulier le tennis qui, quand tu fais du rugby, du judo, du basket, t'es en contact avec le bonhomme. Là, tu l'as devant toi, tu peux pas le toucher, etc. Le seul moment où tu le touches, c'est à la fin.
C'est pour lui dire bravo, alors t'as perdu. Gros.
Voilà. Et en plus, voilà. Donc tu le contiens. Et puis, si tu mets ta rage dans un coup, eh ben 9 fois sur 10, il est dans le filet, tu vois. Donc c'est très compliqué de conserver
David,
cette
quand
énergie.
Quand t'étais sur un tatami, que t'étais battu, ça t'est rarement arrivé, mais que le ton combattant, ton adversaire, t'avais un peu manqué de respect pendant le combat, t'as jamais eu envie de le prendre et de lui faire une
tu sais pourquoi tu sais pourquoi parce que japonaise. Gamin, mais je vais t'expliquer un truc, alors peut-être ça a parlé à Corentin, mais je veux pas être le donneur de leçons de service, mais moi j'avais remarqué ça, que il y avait des adversaires qui te poussaient à bout, qui te faisaient des saloperies sous le kimono, etc., etc., et pour te faire péter les plombs et en réalité mieux te battre. J'avais appris un truc très tôt, je me suis mis à apprécier et à adorer tous mes adversaires, même ceux qui, en dehors du tatami, je pouvais pas voir. Non mais vraiment, pourquoi? Non mais très sincèrement, je jure, c'est un super truc. Tu aimes ton adversaire parce que il te pousse dans tes derniers tranchements pour te sublimer, et tu l'aimes que pour ça. Voilà. Et quand tu joues, et quand tu l'as dans le kimono, tu es dans cette configuration mentale là, ce qui fait que il peut faire ce que tu veux. Tu pètes jamais les plombs parce que, en réalité, tu dis, waouh, bah, ok, il me challenge, je vais aller plus haut que lui, je vais faire mieux que lui, toi. Et là, t'es dans un truc qui te tire vers le haut, plutôt que d'être dans un truc qui te tire vers le bas avec de la haine, de la frustration, du truc, du truc. Mais enfin, c'est un truc qui est particulier, qui est propre à soi-même. Voilà.
Oui, mais
malgré tout, c'est une astuce psychologique, mais c'est intéressant.
Non, mais on parle d'une chose essentielle, que dans tous les sports, on est confronté à la provocation.
Mais ce que je voulais dire.
Le sport. Non, mais que ce soit le rugby.
Mais bien sûr, Denis, mais.
Que ce soit le rugby, le judo, le tennis. Et à partir du moment où tu as la provocation, ou soit tu y réponds, soit tu y réponds pas.
Oui, mais tu peux y répondre sur un terrain de rugby, pas sur un tennis.
Et David, vas-y, finis.
C'est pour ça que je veux rebondir, parce que je pense que la référence Federer, elle est importante de la citer. Je le pense vraiment, parce que c'est vrai qu'on ne peut pas se comparer à Federer, c'est ridicule. Tu as raison, Corentin. Mais après, Federer, quand tu vois son cheminement, alors c'est pas pour tout le monde va pas devenir numéro mondial, mais quand tu vois son jeu, son caractère à 15 ans, tu te dis, mais comment ce mec a fait pour devenir ce qu'il a été. Et moi, je suis bluffé par ça.
Restez bien avec nous dans quelques instants. La suite du best-of des grandes gueules du sport. Oui, Père Noël, on est là. Joyeux Noël à toi aussi, Père Noël, il n'y a pas de raison. La deuxième partie de l'interview avec Corentin Moutet, c'est dans quelques instants. A tout de suite sur RMC.
RMC, les meilleurs moments des grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
On est de retour sur RMC pour le best-of des grandes gueules du sport. La suite de l'interview de Corentin Moutet qui avait créé la polémique. C'est maintenant toujours en compagnie de David Douillet, Stephen Brun, Denis Charvet et Christophe Cessieux. Corentin Moutet est donc toujours avec nous autour de ce débat. Faut-il pardonner les pétages de plomb? Vous êtes plutôt d'accord dans le studio RMC pour dire oui, on pardonne. David Douillet, tu poursuis la discussion car tu voulais ajouter quelque chose il y a quelques instants. David.
Je voulais dire que tout ça était très humain et heureusement qu'on a ça. Je ne vais pas dire qu'heureusement qu'on a les pétages de plomb, mais voilà, on n'est pas des robots et on est. Faut comprendre ce qu'est une compétition de haut niveau. Il y a une pression, la pression de l'enjeu. Il y a des choses qu'on réussit, des choses qu'on rate, etc., etc. Et souvent, on est en colère contre qui? Contre soi-même, en vérité. Et quelquefois, ça réagit autrement. Surtout quand on vient vous chercher, quand l'adversaire trouve le petit chemin qui vous amène jusqu'au pétage de plomb. Voilà. Et ça doit être compris de tout le monde. Ok, c'est pas la belle image pour les gamins, etc., etc., mais on n'est que des femmes et des hommes avec nos défauts et nos qualités, et c'est la vie, et c'est comme ça. Donc on doit pardonner, surtout à des gens qui sont généreux pour vous montrer de belles choses dans leur art, que ce soit le tennis ou autre chose.
T'es pas obligé de pardonner à tout le monde, je suis désolé David. Il y a des pétages de plomb, t'es pas obligé de pardonner. C'est trop.
Zidane, vous lui avez tous pardonné.
Non, mais c'est trop facile ce que tu dis.
Zidane, vous lui avez tous pardonné.
Dans la minute.
C'est vrai que c'est humain, c'est vrai que c'est des rapports avec soi-même, on est d'accord, tout ce que tu dis, on est d'accord. Mais après, moi, je reviens à la provocation. C'est du self-control aussi, t'es obligé de faire face à une provocation de tout moment.
Corentin, on parle et on l'a dit de quelque chose qui, au final, n'est pas grand-chose. Est-ce que tu as peur ou pas du tout que cette image reste pour toi et qu'on reste centré là-dessus en se disant « Ah oui, Corentin Moutet, je m'en souviens. » Est-ce que c'est un truc où tu y penses ou pas du tout?
Bon, en fait, s'ils restent bloqués là-dessus, c'est qu'ils vont rater le plus important. En fait, je pense que C'est vraiment, il y a rien à manger là-dedans. En fait.
Il y a rien eu.
Il y a rien. Non, il s'est rien passé. Il m'a insulté. On s'est un peu tiré. Enfin, c'est passé une vraie bagarre en vrai. Donc, il s'est rien passé. Je pense qu'il y a rien à retenir de positif là-dedans, à part que, comme on disait, c'est humain. J'ai réagi. J'aurais pas dû réagir. Vous parlez de self-control. J'aurais peut-être pas dû réagir, mais j'étais très surpris sur le moment. Donc, en fait, j'étais pas préparé à ça.
Ça se passe en une fraction de seconde.
Tu n'as pas l'impression que s'il n'y avait pas eu d'autres antécédents auparavant, ce serait plus facilement passé. Parce que c'était un peu coutumier du fait. Pas des bagarres sur le terrain. Mais je me rappelle d'une histoire avec un petit ramasseur de balles où tu vous êtes pris la tête il y a quelques temps.
Laquelle
Je ne sais plus. Ouais. Ouais,
ça me dit rien. Je disais des choses.
Sur celui.
Ouais, je lisais ça tout à l'heure.
On va laisser Christophe retrouver cette version d'histoire. Attention parce que je voudrais juste dire qu'on reçoit pas Benoît Paire. Hein. C'est Corentin Moutet qui est avec nous, les copains. Moi, je voudrais vous faire écouter quelque chose pour partir sur un autre sujet. Écoutez ça et dites-moi à quoi ça vous fait penser, Corentin Moutet. Écoutez ce son, Corentin.
Je suis dans l'impasse, je veux pas mourir dans ce traquenard. Et dans la pièce, moi je suis tout seul perdu dans le noir. Je suis dans l'impasse, je veux pas mourir dans ce traquenard. Et dans la pièce, moi je suis tout seul perdu dans le noir.
Moi j'aime beaucoup et sachez, chers auditeurs, c'est Corentin Moutet qui rappe. Donc, d'ailleurs, Stephen, t'avais une question sur
ouais, bah alors,
ça, parce qu'hier soir t'as écouté, tu m'as dit
ouais,
j'ai écouté beaucoup de chansons.
Je suis allé voir notamment les clips. Alors, je veux pas me prendre pour Olivier Cachin ou Mehdi Maizi, qui sont des chroniqueurs de rap, mais j'ai trouvé que toutes tes chansons, tous tes clips, c'était un petit peu des chansons un peu tristes, un peu sombres, et que ça manquait un peu de. Alors, est-ce que c'est le reflet de toi, de ta vie, de.
Bah c'était pendant le confinement. Après j'ai arrêté, mais pendant le confinement, c'est vrai que c'était pas. Enfin c'était une période où moi j'étais tout seul tout le temps pendant un mois et demi. Donc c'était ce qui ressortait. En vrai moi j'avais pris ça pour comme une thérapie. Donc souvent dans les thérapies c'est pas le plus lumineux qui ressort. Donc.
Mais tu chantes depuis tout petit ?
Non, pas du tout.
T'es venu comme ça ? C'est.
Ouais j'ai. Bah, pendant le confinement c'est tous créer des nouvelles passions. Hein.
Tu fais les sons aussi.
J'essaie, ouais.
Mais c'était quoi qui t'a intéressé au départ, l'écriture?
Ouais, moi j'ai toujours écouté beaucoup de rap et c'était vraiment l'écriture, de voir si je pouvais réussir à allier la technique, le sens et puis vraiment ce qui me représentait. Donc
c'était
marrant, c'était sympa à faire.
Ouais. Bravo. L'équipe et tout.
Ah, okay. Bravo. Hein. Si on peut réécouter un petit morceau avant la fin.
On va réécouter juste après. Une fois qu'on
est fan de rap, toi.
Mais si,
au revoir à Corentin.
Génération non plus.
On réécoutera.
C'est ton âge que j'aime pas le rap.
Mais je trouve sincèrement qu'il y a quelque chose dont tu pourrais poursuivre dans cette voie. Mais continue le tennis. Parce qu'on va parler de cette année avec l'US Open qui s'est très bien déroulé pour toi, où tu bats Wawrinka, où tu bats Van der Zandschulp.
Ouais.
Alors, il y a un problème. Je l'ai bien dit ou pas, Corentin?
Ouais, je crois.
Merci. Cachine, c'est bon, je l'ai bien dit aussi.
Cachine.
Et justement, c'est face à Cachine qu'il y a eu cette histoire avec le petit ramasseur.
Ouais.
C'est vrai, Cachin. Tu t'en rappelles?
Non, pas du tout.
Tu t'en rappelles pas?
Non,
alors, les journalistes ont écrit des trucs.
Arrête de l'embêter, oui.
Mais oui,
c'est les journalistes qui l'ont dit.
Il a rien fait, quand même.
Non, mais il y a eu plein de papiers partout. Tu t'adresses à lui.
Non, mais après, c'est
si donne-moi la balle.
Des défauts,
oui, voilà. Il faut que je me mette tout nu pour que tu me donnes la balle. Tu lui dis.
Ah ouais?
Non?
C'est drôle, ça.
Tu as raison, c'est drôle, oui.
Et après, il y a eu cette défaite en 8e de finale, mais c'est la première fois que tu allais en 8e de finale dans un grand chelem par Casper Ruud, qui est allé jusqu'en finale, évidemment, on s'en souvient, c'était il y a quelques semaines. Est-ce que, juste sur ce parcours, tu peux dire que ta saison est réussie ?
Non, vraiment pas. Je pense que le tournoi que je gagne après, justement, l'US Open, c'est quelque chose que j'ai toujours eu du mal à faire, enchaîner, avec la fatigue, avec le décalage horaire, tout ça. Et je suis bien plus, pas fier, parce que je suis aussi fier de mon US Open, mais je suis fier d'avoir gagné ce Challenger après, de revenir dans des conditions où personne ne regardait les matchs, j'étais tout seul sur le terrain. Donc voilà, je pense que non, je suis content depuis Roland-Garros. Depuis Roland-Garros, je trouve que j'arrive à bien faire les choses et que
Roland-Garros voilà, où tu bats au premier tour une nouvelle fois Wawrinka, il doit pas beaucoup t'apprécier. Hein. Oh non, encore Corentin Moutet au premier tour. Battu également, tu as été battu par Rafael Nadal, mais ça, hein,
on
de t'en vouloir. C'est vrai que c'est une saison où on a la sensation que. Et on met de côté évidemment ce qui s'est passé cette semaine, mais on a la sensation qu'il y a une vraie progression. Est-ce que toi aussi tu le sens ? C'est-à-dire que tu sens que tu vas être beaucoup plus attendu maintenant ?
Ouais.
Pas forcément.
Je sais pas en fait s'ils vont m'attendre, mais en tout cas, je suis content d'avoir réussi à enchaîner comme ça. J'avais eu beaucoup de mal à jouer des tournois, m'entraîner tous les jours. J'avais pas mal de pépins physiques, donc à chaque fois on devait faire autour de ça. Et c'est vrai que depuis les préparations de Roland Garros, j'ai raté aucun entraînement à cause de ça, raté aucun tournoi. Et c'était vraiment l'objectif principal parce que je sentais que je jouais bien, mais j'avais cette frustration de me dire ouais, mais j'arrive pas à enchaîner. Je dois toujours prendre du repos pour reposer les douleurs et tout, et là j'ai réussi à le faire, donc je suis vraiment content qu'on trouve l'équilibre petit à petit,
de pas trop s'entraîner, mais attendre. Mais est-ce que tu sens le respect chez les autres maintenant, chez les autres joueurs?
Souvent sur le circuit ça marche comme ça, quand tu les bats une fois ils disent voilà, bonjour, ouais. Alors que
pas chez le Bulgare.
Non mais c'est ça qui est intéressant. Aujourd'hui tu sens que le regard des autres joueurs a changé par rapport à toi?
Non mais t'es plus accepté en fait quand t'es dans le vestiaire. Mais après, je sais pas s'ils ont plus peur.
Après, les mecs, premier tour, c'est pas un bon tirage quand t'as monté en premier tour de Grand Chelem ou de Master Smith.
Toi, le spécialiste, pourquoi?
Tu as joué, toi?
Pourquoi c'est pas
premier tour?
Non. Mais parce que c'est, il a une main incroyable, il est gaucher, il fait des coups qui sortent de l'ordinaire, il est pénible à jouer, Quentin, c'est une petite mobilette, donc physiquement il court partout, il ramène des balles, il fait des points hallucinants, c'est pas un bon tirage, Quentin Moutet. Alors,
gros cardio.
Peut-être que quand il montera, il sera top 50, on espère qu'il sera tête de série, j'espère que lui il prendra pas un garçon un peu relou à jouer, mais c'est quoi d'ailleurs l'objectif au classement, c'est d'être dans les 50, 40, ouais, 30.
Je sais pas si je vais réussir, mais c'est de finir l'année dans les 50. J'aimerais bien, c'est l'objectif que je m'étais donné. Et puis après, si j'y arrive pas, j'essaierai l'année prochaine. Mais en tout cas, essayer de bien finir dans les 50 pour pouvoir avoir un planning plus facile à faire l'année prochaine.
Et pour y arriver, c'est quoi? C'est des tournois gagnés? C'est d'enchaîner les victoires?
Beaucoup de matchs. Il doit rester 4 tournois, je pense. Ouais. Donc ça doit être, je sais pas, 150-200 points, comme ça.
Quand t'es top 50, après c'est fini les challengers. Après,
ouais,
c'est que,
ça, ouais. Tu joues
top
les...
50, tu chantes.
Ouais. Et financièrement parlant, t'as un gap quand tu passes justement à certains classements, ou alors c'est en fonction des résultats que tu fais, notamment dans les grands chelems, où là les prize money sont vachement plus importants.
Ça dépend des grands chelems, ça dépend à ton âge aussi par rapport à ton classement, parce que souvent les sponsors sont, si jamais t'es 200e mondial à 16 ans ou à 23 ans, tu gagnes plus. Bah, 16 ans, je pense que c'est
les mecs parient plus sur toi qu'à
Bandes Vallées, ouais. Donc il y a ça, et puis évidemment les grands chelems, et puis ça dépend aussi de qui tu t'entoures, en fait, tes frais. Parce qu'en fait, nous, on gagne beaucoup d'argent, mais on a énormément de frais, vu que tout est pris par le joueur. Donc il y a ça à prendre en compte. Beaucoup de personnes qui regardent sont piégées par ça, et beaucoup de joueurs aussi peuvent être piégés, où tu gagnes 200 000 euros, tu te dis, c'est bon, je peux vivre. Et en fait, tu te rends compte que les dépenses, elles sont énormes parce que tu voyages toutes les semaines.
Tu payes ton entraîneur.
Tu voyages toutes les semaines, tu voyages avec ton entraîneur.
Et c'est aussi pour ça qu'on t'a invité pour payer la location de ce studio aujourd'hui. Merci d'ailleurs de nous permettre ça. On va terminer avec Corentin. Ouais.
On va terminer, donc c'est la dernière question.
Je pense, oui.
D'accord. Non, en fait.
Elle est bonne ou pas?
Je sais pas si elle est bonne.
Bon, vas-y.
Non, en fait, je veux dire que je suis très content parce que Corentin, on avait tous cette image de, parce qu'on le connaissait pas en fait dans les médias. Je sais pas, il s'exprime pas beaucoup.
On le voit jouer quand même.
Oui, mais on le voit jouer, mais t'avais ce regard de
il
l'extérieur.
Il ne s'exprime pas beaucoup. En tout cas, ça fait plaisir de l'entendre.
Ouais, justement. Et les gens jugent Corentin Moutet sur son niveau tennistique, j'espère, et surtout pour ce qui se passe sur le terrain. Et je trouve que l'image est pas bonne. Et je suis très content qu'il soit venu ici dans notre studio pour justement l'apprendre, l'écouter parler, comprendre que. C'est un garçon qui sait parler correctement, qui s'exprime bien et que c'est une bonne personne. Et qu'il ne faut pas juger, s'arrêter à ce qui se passe sur le court. Parce que moi aussi, j'ai souffert de ça. On s'est beaucoup arrêté sur mon comportement sur le terrain en disant que j'étais un gros connard et que finalement, je pense être un bon mec.
Mais ça ne t'a pas empêché d'être
quand même un connard.
Ça va.
Je
ne
répondrai pas à la dernière question.
Non, je rêve.
Non, mais très vite.
Oui, mais si tout le monde fait très vite, moi l'année prochaine, je
vais dire à Corentin que je regardais jouer de l'extérieur. Jamais eu une mauvaise image de lui, au contraire, une image de combattant, de guerrier. Et c'est vrai, quand tu le vois jouer, ce mec, il va dans des retranchements qui font plaisir parce que c'est ce qu'on aime dans le sport.
Et moi, j'ai jamais eu de mauvaise image.
Non, Benoît Paire et Mario Martoli. J'aimerais bien qu'ils discutent tous les deux. Je sais pas si ça se finira comme le dernier match de Corentin, mais ce serait pas mal.
C'est mieux que la
Corentin. Alors,
ça, c'est
pour moi, Denis Charvet, la tienne quand même.
On comprend plus rien.
C'est nul, toi.
Ok, Corentin.
On coupera mon montage.
Oui, mais David, 10 secondes, s'il te plaît.
Il va falloir en couper d'autres.
Ouais, c'est très simple. Moi, si Corentin devient le mec Unro français, ça me va super, voilà.
Ils sont gauchers tous les deux, déjà, c'est le point commun.
Mais des gens avec du caractère, c'est toujours plaisant, surtout dans le tennis. Enfin, ouais.
Merci, Corentin.
On va pas écouter le rap.
On va l'écouter, laisse-moi faire cette émission.
Est-ce que tu veux que je le sors?
Ah ouais, sors-le-moi, il est insupportable. Mais moi ici, le con, fais le conducteur dès le jeudi, viens.
Le problème, c'est qu'il va demander.
Oui, mon Denis.
C'est pas parce que tu travailles 3 jours dans la semaine.
Ça fait 4 fois que je te dis qu'on va réécouter. Donc fais-moi confiance. Je suis en train de dire au revoir. Toujours un truc à dire. Merci, Corentin.
Merci à toi. Merci,
tu vois, les pétages de plomb, moi, je peux lui sauter dessus, là. Merci.
Elle va pas gagner.
Et on te souhaite une belle fin de saison et on suivra notamment ton parcours pour la saison prochaine. Merci d'avoir été avec nous. D'avoir accepté cette invitation.
RMC, les grandes gueules du sport et vous.
Vous venez interpeller une GG au 32-16, Christophe Cessieux, Stephen Brun, Denis Charvet ou Marc Madio. Hervé, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, Hervé. Un grand plaisir de te recevoir. Hervé, tu vas affronter qui? La castagne avec qui?
Et ce sera avec Stephen Brun.
Stephen, Hervé. Pourquoi Hervé?
Ben, sur l'équipe de France, sur les joueurs internationaux, notamment.
Le rugby. Okay.
Le rugby.
Ok, Stephen pensait qu'il fallait mettre ses joueurs au charbon, alors que toi, tu penches plutôt l'option coton, les préserver avant la Coupe du Monde, c'est ça?
Ben complètement. Déjà, il faut se mettre à la place des joueurs aussi avant tout. Hein. C'est eux le plus important. Et moi, j'essaie de mettre à leur place. S'ils ont le choix entre un titre de champion de France ou un titre de champion du monde, c'est tout vu. On l'a déjà vu l'année dernière, les joueurs du Stade Toulousain, le match contre le Racing Métro à domicile, juste avant de partir au tour de destination, ben, ils sont passés complètement à travers. Ils avaient déjà la tête à l'équipe de France. Donc déjà, pour ces raisons-là, il va falloir les ménager. Et puis le Stade Toulousain, vous avez parlé de Mehdi Jaminet, ben son arrivée en fait pour moi elle est positive. Ça va pouvoir faire tourner un peu plus. Ramos et Jaminet vont se partager les matchs. Ramos va aussi remplacer Romain Tamac, donc du coup il va y avoir beaucoup de turnover et les joueurs seront un peu plus frais, j'en suis persuadé.
Ok, les ménagers, Stephen Brun.
Alors, puisqu'il parlait de penser aux joueurs, ben moi aussi je vais penser aux joueurs, Hervé. Il y a 600 joueurs dans le top 14 qui ne sont pas internationaux du 15 de France. Est-ce que toi aussi tu penses à ces garçons qui sont dans les clubs, qui ont peut-être des perspectives de champion de France ou champion d'Europe, ou même les étrangers, qui n'ont rien à carrer du 15 de France? Eux, ils jouent pour leur carrière personnelle, ils ont envie d'être champion de France, ils ont envie d'être champion d'Europe. Donc eux, ils vont devoir se sacrifier pour 30 joueurs dans le top 14 pour leur donner la possibilité d'être, de gagner la Coupe du Monde.
Mais ça va les tirer vers nous.
Je pense à ces joueurs-là.
Justement, ça va être à eux de prouver. Justement, ils ont une carte à jouer. C'est justement là que c'est leur chance à eux. C'est leur carrière qui va commencer là, s'ils le veulent. C'est à eux de prendre justement les rênes et de montrer qu'en club, ils sont performants et à eux de tirer tout le monde vers le haut.
Bah, oui, mais d'accord. Mais sauf que le Stade Toulousain a bâti son équipe avec ses internationaux. Les internationaux sont censés être les meilleurs joueurs de l'équipe pour les leur permettre d'être champion de France. Ces garçons qui sont pas internationaux, ils arrivent, ils jouent sur les matchs, quand t'as des doublons et tout ça.
Je pense que justement, ils n'ont pas fait l'erreur, ils ont anticipé, ils ont vraiment recruté de très bons joueurs qui sont internationaux comme Roumat, Barassi. Ils ont vraiment, je pense, cette année un effectif justement pour pouvoir faire reposer des internationaux. Et je pense qu'ils rendent l'appareil aussi à l'équipe de France. Il ne faut pas oublier que tous nos joueurs internationaux de Toulouse n'ont pas joué à la tournée du printemps. Donc voilà, je pense qu'il y a une cohésion depuis 2-3 ans entre les clubs et l'équipe de France. Et je pense que ça marche à merveille et ils vont jouer le jeu, les clubs.
Merci Hervé d'être venu affronter Stephen Brun.
Qui sont calmes, posés.
Il a été très bon. Hein.
Bravo
Hervé et à bientôt au 32-16. Je sais, Denis, tu n'es de toute façon pas d'accord avec Stephen Brun. On ne va pas vous réconcilier. D'ailleurs, sur aucun débat, on peut vous réconcilier. Mais tu auras peut-être voix au chapitre dans quelques instants parce qu'on accueille Malik. Bonjour Malik.
Ah Malik,
allez Malik.
Oui, bonjour les grandes gueules. Bonjour à monsieur Cessieux, Christophe, mon ancien professeur.
Malik, grand fan de basket.
Fais pas genre, tu te rappelles de qui
Malik,
c'est
Malik Davo, bien sûr.
Bah alors
bien
on va savoir. Malik,
il est aujourd'hui journaliste et il s'occupe de basket Canal Plus Afrique.
Ah oui, mais je vois qui c'est, Malik.
Voilà. Malik, tu voulais bastonner avec qui là?
Non, c'est juste un témoignage sur le maraboutage, le fétichisme dans le sport.
Vas-y, bon, t'écoutes.
Voilà, moi j'ai été sélectionneur de la Côte d'Ivoire et avant ça, il y avait une finale, j'entraînais un club et un mec qui débarque dans mon vestiaire avec le responsable administratif, il nous propose de l'huile de la part du président, une huile magique qui allait nous permettre de remporter la finale. Et je dis à ce marabout, est-ce que vous êtes conscient qu'on joue au basket avec les mains? Parce que de l'huile dans les mains pour gagner une finale, ça va pas le faire.
Peut-être qu'il voulait la mettre ailleurs, l'huile, Malik.
Merci, Stéphane. Vas-y, Malik.
Soit vous sortiez de mon vestiaire, soit moi je déclare forfait. Il m'a dit, si vous perdez, c'est ta faute. J'ai dit, OK, il n'y a pas de souci. On monte au Palais des Sports, c'était à Abidjan, en Côte d'Ivoire. On remporte la finale. Et pendant que tout le monde exultait, moi je le cherchais dans la tribune, il s'est barré.
Ok. Ouais. Voilà. Des histoires de maraboutage, c'est vrai qu'on en a raconté déjà. C'était à 10h30 à l'écouter le podcast. C'est très intéressant et ce témoignage aussi. On y croit, on n'y croit pas. Chacun évidemment.
Après, il y a des bons et des mauvais marabouts. Qu'est-ce qu'un bon marabout?
Le bon marabout, il te dit quelque chose et ça se passe.
Et qu'est-ce qu'un mauvais marabout?
Il te dit chose et ça se passe.
D'une manière générale, quand ils font des incantations, ils finissent par dire si Dieu le veut. Ah oui. Et pourquoi nous on va pas à Dieu directement?
C'est logique. Il prend une com.
En fait, le marabout, il prend une petite com.
Merci beaucoup, Malik, d'avoir été avec nous. Bientôt, n'hésite pas. Tu peux nous rappeler quand tu veux au 32-16. Allez, c'est bientôt la fin du best-of des grandes gueules du sport. Mais restez bien avec nous. Un dernier petit bonbon pour vous, un dernier petit cadeau en ce jour de Noël. Pierre Amiche, notre homme heureux, est fan des marabouts. Ça promet. À tout de suite sur RMC.
RMC, les meilleurs moments des grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
Vous écoutez RMC, la dernière partie du best-of des grandes gueules du sport. Place à l'humour, place à l'humeur de Pierre Amiche que vous retrouvez tous les samedis et dimanches à 10h30 dans notre émission. En ce samedi 3 septembre, un dossier a titillé sa curiosité. Les marabouts, toute une histoire. Pierre Amiche.
RMC. Quand je suis content, je vomis. Et là, je suis hyper content.
Je suis tellement content.
Un homme heureux.
Pierre Amiche, quelle joie, bonjour.
Bonjour, ouais, moi aussi, quelle joie, j'ai fait un petit peu pipi sur le siège, c'est possible ça ou pas?
Oui, c'est possible.
Non, parce qu'aujourd'hui, je suis un homme heureux et surtout un peu excité, c'est à cause de l'affaire Pogba, Mbappé, les sorciers, les marabouts. Non, mais je m'explique, en fait, après 9 mois, dans un état végétatif, je suis en fin de retour. Non, parce que j'ai eu un petit coup de moins bien. En fait, j'arrivais plus à écrire. Même globalement, j'arrivais plus à rien, à part jouer à Pokémon en slip dans mon canapé. Franchement, je foutais rien du tout. J'étais le chaînon manquant entre le ficus et Denis Charvet. Et c'est drôle parce que je chialais tout le temps. Je faisais des crises d'angoisse à Leclerc. J'arrivais plus à faire une addition sans saigner du nez. On me parlait un peu fort. Paf, je me mettais à chialer comme ça. C'était fou. Mais j'ai trouvé la solution pour remonter la pente. Je suis devenu marabout. Vous pouvez désormais m'appeler le professeur méga bambou. Je suis un peu le marabout des stars, quoi. Je peux tout faire. Impuissance sexuelle, chute des cheveux, ventre qui pousse, les trois à la fois. J'appelle ça le forfait Christophe Cessieux. C'est du sur-mesure. Mais ma vraie spécialité, le truc qui m'a vraiment fait exploser au niveau international, c'est la malédiction. Par exemple, Marc, tu m'as dit que tu avais envie de maudire la Jumbo Visma. On peut s'arranger. Un mot de moi et toute l'équipe attrape la variole du cacatoès, la chiasse albanaise et paf, David Gaudu sur le podium à Paname. D'ailleurs, Marc, petit code promo pour toi. Hein. T'envoies Pogba au 7-32-16, je te fais 10%. Non, en vrai, j'ai totalement coupé pendant un mois. J'étais en zone blanche. Non, j'étais pas en vacances à Neuilly, j'y sais. Ça veut juste dire que j'avais pas internet. Et donc, quand je suis rentré de congé, c'était la dinguerie. Pogba avait fait appel au service d'un marabout pour porter l'œil à Mbappé. C'est le Camoulox. Non, mais sérieusement, t'imagines le délire total. Maudire un coéquipier, jeter la chrola sur un pote. Puis moi je me dis, tu demandes quoi au gars? Tu dis, vous faites dans la petite malédiction. Petite malédiction comme ça. Moi ça me paraît surnaturel. Et imaginez que ça puisse exister en équipe de France et que ça concerne les deux plus grosses stars des Bleus. En fait j'ai plus de mots, quoi. Le pire c'est qu'il y a que deux possibilités. Soit Paul Pogba l'a fait et c'est totalement ouf. Soit il l'a pas fait et son frère Mathias ment et c'est totalement ouf aussi. Et au final le seul truc qui m'intéresse, eh ben c'est que ça en dit long sur la place qu'on laisse au saut paranormal dans le sport en général et dans le foot en particulier. Comme si la réussite au haut niveau pouvait pas totalement se comprendre de manière rationnelle. Pourquoi j'ai été choisi moi et pas un autre? Et c'est peut-être ça, moi, qui m'a bousillé et qui vrille totalement le cerveau des stars du foot. C'est le sentiment d'être un peu une imposture, quoi. Ce que je fais, n'importe qui pourrait le faire. Et en découle l'éternelle recherche du pourquoi. Pourquoi le succès? Pourquoi l'argent? Pourquoi la célébrité? Là, je parle pas pour moi. Tout ça, c'est peut-être qu'une force les pousse, les protège et qu'à l'inverse, tout peut s'arrêter si cette main invisible disparaît. C'est le triomphe de l'inexplicable, la peur de l'invisible. Et donc, la porte ouverte à l'occultisme, aux griots, aux marabouts, aux divinateurs, aux sorciers. Puisque la raison ne suffit plus, tournez-vous vers le mystique. Et cette dynamique, elle est encore plus exacerbée par les écarts indécents qui existent entre le commun des mortels et les rares élus qui peuvent nager la brasse coulée dans l'océan de l'opulence. Et ils deviennent comme les petits nobles, les petits ducs, les petits barons. Ils défendent leurs privilèges de toutes leurs forces, avec toutes leurs armes, y compris les plus démentes. Alors, Pogba, Mbappé, les frangins, la mère, Didier Deschamps, qui a fait quoi, on saura jamais. Le seul truc que je sais, c'est que moi, je vais mieux. Mais je reste fragile. Alors méfiez-vous, mes petits lapins. Les GG, c'est une grande famille, mais les Pogba l'ont prouvé. on n'est jamais trahi que par les siens.
Merci beaucoup Pierre Amiche. Un homme heureux, il est de retour le samedi. Il sera également là le dimanche. Mais le dimanche, vous le savez, c'est un homme en colère.
Il n'a pas perdu sa plume, c'est ça qui est bien.
Exactement.
On peut se poser la question quand même.
Il écrit bien le garçon.
Ouais,
bah ouais, bravo.
Ouais. C'est comme le vélo, ça s'oublie pas. Hein. Bravo Pierre et bravo à demain Pierre. Pour cet homme en colère. C'est à vous de trancher maintenant les GG, les marabouts, les sorciers. Est-ce que c'est un domaine? Est-ce que vous arrivez à y croire? Tout simplement. Oui ou non, Christophe Cessieux?
Non, mais...
Marc Madiot?
Oui, mais...
Stephen Brun?
Non.
Denis Charvet?
Non, mais j'ai de belles histoires de marabout de mon ami africain.
Yannick Noah, ouais. tu vas nous en raconter
oui,
ou pas?
Oui, mais j'en ai plein, mais bon, après...
Bah vas-y, lance-toi.
Moi, personnellement, j'y crois pas, donc... non, mais il m'a raconté des... Effectivement, lui, à Yaoundé, au Cameroun, mais de toute façon, en Afrique, c'est des rituels, hein, c'est comme...
Je le disais tout à l'heure, hein, Claude Leroy, qui a été sélectionneur de pas mal de nations africaines, qui vit et qui a longtemps vécu en Afrique, et qui est un copain, et il le dit, en Europe, on a les psys, en Afrique, bah, y a les marabouts, ça fait partie de la société.
Non, mais après, t'y crois pas. Après, il m'a raconté des belles histoires. Et un jour, il était pour son mariage, il y avait un marabout et il lui a dit tu auras 5 enfants. Voilà, donc, et puis il a donné des détails et puis tout s'est avéré vrai. Donc, lui, il te l'explique, il y croit, quoi, parce que bon, il est à moitié africain et que chez lui, c'est quand il fait partie de sa culture, de son presque son état. Et donc, quand tu l'écoutes, effectivement, et que tu le vois aussi convaincant et convaincu, tu te dis, mais pourquoi pas, mais moi, au fond de moi, je n'y crois pas.
Au fond de toi, tu n'y crois pas. Vous avez certainement des histoires, j'imagine, dans les vestiaires, par exemple, de basket, avec des joueurs qui faisaient ça, justement, qui faisaient appel à des marabouts, Stephen Brun.
Oui, alors, moi, pour revenir sur le thème, moi, j'y crois pas. Moi, j'ai eu des superstitions. J'ai eu des jours de match. Il fallait faire le même échauffement, mais c'était plus des routines de préparation
pour me rassurer que
la superstition. Après, les marabouts, les gris-gris, j'en ai vu plein dans ma carrière. Moi, j'y crois jamais. Mais les gens qui étaient concernés, eux, ils étaient persuadés que ça fonctionnait. Donc, je respectais ça. Et puis, moi, j'ai vu un garçon, quand je jouais à Nancy, se blesser au genou, et faire un aller-retour express au Congo pour voir son marabout pour le soigner. Il est revenu, il a joué. Lui m'explique que c'est le marabout qui l'a guéri. Je lui dis, bah, attends, mais ta blessure, elle devait pas être si grave que ça, quand même. Enfin, dans ma tête, il s'est pas fait les ligaments croisés. Après, il a joué un match, parce qu'après, il y a quand même des examens, des IRM qui te montrent des choses. Donc, Mais c'est des gens parfois qui ont besoin d'être rassurés et ça leur permet d'être rassurés. Moi, j'y ai jamais cru, mais j'ai toujours respecté. J'ai joué avec des Sénégalais, des Maliens sous la douche. Ils avaient des gris-gris autour du et ça leur protégeait du mal, des mauvais sorts qu'on pouvait leur jeter, tout ça. Parfois, je les chambrais, je rigolais avec eux. J'ai toujours respecté ce truc-là, mais moi, j'ai jamais vraiment cru en fait.
Mais c'est loin
et puis,
de toi.
Et puis, si ça marchait vraiment, et là, je vais faire un peu d'ironie. Un club africain aurait été champion du monde, enfin une sélection africaine aurait été champion du monde. Déjà, si les marabouts avaient autant de pouvoir que ça, ils auraient permis au Sénégal, au Cameroun, d'être champion du monde de foot.
On te répondra que c'est pas une science exacte.
Oui, c'est pas une science exacte. Il a raison. Donc,
mais s'il y a tellement de croyances, c'est que.
Bah oui, j'ai une histoire de marabout à vous raconter dans quelques instants. J'en ai plusieurs, mais je pourrais notamment vous en compter une à propos du Paris Saint-Germain. Mais d'abord, on va continuer le tour de table. Oui, tu y crois? Il y a un mais quand même, Marc Madiot.
Bah, moi, je suis un peu comme François Mitterrand. Je crois aux forces de l'esprit. Et à partir de là.
Tu fais des infidélités à Charles de Gaulle, là.
Oui, mais. oui.
Vas-y.
Je crois aux forces de l'esprit et. Je pense, et là je suis sérieux, je pense qu'il ne faut pas jouer avec ça. Il faut faire attention. Souvent, on dit j'y crois pas. Parce que c'est la solution de facilité. Mais il y a toujours un petit moment où le mais s'installe. Donc il faut.
Oui, mais c'est souvent prudent. Pour se rassurer.
Oui,
on en revient toujours au doute que l'on peut avoir en soi. Et tout d'un coup, ben, tu te dis, tu te raccroches à des espérances. Ça fait partie de
des
ces
espérances. Mais bon, enfin, moi, franchement, je suis convaincu que. Oui, il y a des forces qu'on ne maîtrise pas.
Oui, mais je
ne sais pas sous quelle forme elles se situent, si c'est au niveau religieux, si c'est de la superstition, si c'est des marabouts, si c'est autre. Mais je pense quand même qu'il faut faire attention avec ça. C'est tout. Voilà.
Toi, tu n'y crois pas.
Marc,
j'y crois sans
alors,
y croire.
Tu crois sans y croire, mais si un jour tu dis on a marabouté David Gaudu, tu dis oui, d'accord. Les trois courses d'après, David Gaudu il tombe. Tu vas te dire, bon, ça peut être des circonstances de course.
Je vais être honnête avec toi. Si on me dit tel coureur a été marabouté,
tu vas pas le croire.
Tu vas le prendre au sérieux.
Je vais être vigilant.
Ouais.
Je vais t'embêter avec ça.
Ça va te perturber.
Ça va me perturber. Ouais, c'est le mot exact, ça va me perturber.
Après, il y a ma grand-mère, par exemple, a enlevé le feu. On sait très bien qu'il y a des gens qui enlèvent le feu.
Oui.
Donc, on n'a pas l'explication.
Alors que Johnny, lui, il allumait le feu.
Non. Non, mais j'en reviens à ce que tu dis, Marc, par rapport à ces forces de l'esprit. Pourquoi, ma grand-mère a enlevé le feu? Je n'ai pas d'explication rationnelle. Donc on peut croire à tout et à rien, mais en fait, il y a des fois, il y a des explications.
Oui, mais Christophe, la superstition, elle entoure toute la société. Oui, il n'y a pas seulement en Afrique. Moi, je me souviens de la mère d'un copain à moi qui était descendeur à ski. Chaque fois que son fils s'est lancé, elle mettait une patte de lapin dans son soutien-gorge. Ouais. Et un jour, elle n'avait pas sa patte de lapin. Elle a interdit à son fils de prendre le départ. Tu vois, donc il n'y a pas seulement les sociétés africaines, mais toutes les sociétés méditerranéennes, aussi latines, où ce genre de choses est très présent. Moi, j'y crois pas, mais malgré tout, dans le quotidien, il y a des choses qu'on fait pas. Par exemple, moi, tu me verras jamais te transmettre la salière de main à main. Sûr, ouais.
C'est vrai. C'est comme le pain doit être posé
du bon côté. Il y a ces petits trucs qui fait que on n'y croit pas, mais ça fait partie de notre culture ancienne, quoi, de nos parents, grands-parents, arrière-grands-parents. Donc ça fait partie de la société, quoi.
En tout cas, le soda dès le matin, ça, tu y vas.
Ah ça, oui, il y a pas de souci, il est pas salé.
Quelques histoires à voir. Raconter notamment 97, le Paris Saint-Germain qui doit remonter 3 buts face au Steaua Bucarest. J'imagine que vous vous souvenez tous de cette histoire en tour préliminaire de la Ligue des Champions. Et c'est Michel Denisot, le président de l'époque du Paris Saint-Germain, qui a raconté cette histoire. C'était dans l'émission C'est à vous. Le club a fait appel à un marabout pour l'aider à remonter ses 3 buts de retard au Parc des Princes. Voici ce qu'il dit. Claude Leroy, dans le staff du PSG à l'époque et qui a entraîné le Cameroun et des équipes africaines, me dit qu'il a des coups de fil des marabouts qui l'appellent. Je lui dis: je prends tout, camion de serge à Lourdes, marabout, tout ce qui est légal pour essayer de retourner la situation. Et donc, je rentre en contact avec un marabout qui s'appelle Sidi, avec qui j'ai toujours d'ailleurs des relations aujourd'hui, et je découvre Western Union pour le payer en envoyant de l'argent par la poste. Ce n'était pas des sommes folles, et surtout, vu l'enjeu, ce n'était rien. Au début, il me dit « ce n'est pas possible, je ne vois rien ». Et puis, 2 jours avant le match, il me dit « c'est bon, vous allez gagner 5-0 ». Et je vois même très bien le match. Il y aura le quatrième but à la 41e minute, marqué par le numéro 18. Fin de citation. Je vous rappelle les faits. Il y a eu 5-0. Oui. Florian Maurice, qui avait le numéro 18, marque un doublé et marque donc ce fameux but, le quatrième à la 41e minute.
Oui, bon, après, c'est comme quand tu gagnes au loto, quoi. T'as une chance sur 1 million de.
Voilà, on est même plus que le loto, non?
Oui, plus. Ouais, pareil. Non,
on est pareil, ouais. Pareil,
oui, pareil. Est-ce que ce qui serait pas le grand gagnant de la semaine des paris RMC?
Je te l'ai dit en tête, j'ai vécu avec Michel Denisot une situation un peu la même dans sa voiture.
Tu l'as vécu vu de tes yeux vus.
Avec Bernard Laporte, où il a été convié à un avant-match de finale de Coupe de France, Châteauroux PSG. La veille.
Et Michel Denisot était à l'époque le président à ce moment-là de Châteauroux.
Exactement. Ouais. Et on est allé dans un château voir l'équipe la veille du match. Et là, il a appelé le gourou, sûrement le même, puisqu'il dit qu'il a toujours le même. Et là, c'était une conversation absolument, lunaire. Lunaire, voilà. Donc à la 55e minute, il y aura ça. Après, t'y crois pas, mais bon, il faut. Moi, je l'ai entendu, je l'ai vécu.
Final, ça sera 0 pour le PSG, but de Paul Eta.
Si c'est voyant,
il avait dit que Châteauroux gagnait. Hein, je te dis, je te promets que c'est vrai. Hein.
Mais si tous ces voyants, tous ces marabouts avaient la vérité, connaissaient tout, ils seraient tous milliardaires, ils gagneraient au loto toutes les semaines, quand même. Hein.
Mais oui. Oui,
mais ça se passe. Je suis d'accord, mais quand ils croient. Le surnaturel se passe pas comme ça.
Et puis ça te permet de rassurer les gens. Il y a des gens qui ont besoin d'être rassurés.
Absolument. Il y a des trucs. Tu peux me donner les numéros de l'euro million.
Mais il n'y a que l'argent, quoi.
Après, je leur donnerai plein de sous au marabout s'ils me donnent ça.
Je peux te dire en tout cas que si je trébuche avec ma langue et si j'ai du mal justement à aligner les mots au fur et à mesure des émissions, je penserai que tu.
En tout cas, un très magnifique portrait de JC Drouet sur le hashtag RMC Live, fait par Mika. Il a une petite photomontage. On voit JC avec.
Si je me laisse pousser les cheveux.
C'est énorme.
On dirait Cédric Villani. C'est Cédric Villani.
Non, pas Cédric Villani.
Évidemment, ça n'a rien à voir avec notre débat sur les marabouts. Mais
on dirait un vrai marabout, là.
Oui, c'est vrai.
Tu nous as pas dit si tu y croyais, toi, JC.
J'aimerais bien un petit peu comme. Je n'y crois pas, mais c'est quelque chose que je prends au sérieux.
Ah, comme Marc, alors.
Voilà, exactement. Je n'y crois pas.
Ah, moi, j'y crois.
Mais si on me
je
dit.
Je prends au sérieux et j'ai pas
et c'est déjà arrivé avec des amis où ils m'ont dit qu'on leur avait jeté des sorts et tout ça. C'est quelque chose que. J'ai du mal à être hermétique à ça.
Mais moi, je pense qu'il y a des. Enfin. Faut pas toucher.
Non, faut pas toucher à ça.
C'est la fin du best-of des grandes gueules du sport. Merci à tous de nous avoir suivis. Joyeux Noël une nouvelle fois. Passez un très très bon dimanche, Père Noël. Je vous embrasse. On se retrouve avec toute la bande le week-end prochain. Et cette fois-ci, les GG seront en direct avec notamment le retour de la Ligue 1. Passez une très belle semaine. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec le best-of de la Coupe du Monde. Je vous embrasse. Joyeux Noël. Salut.
RMC, les meilleurs moments des grandes gueules du sport.